Radio Okapi.
Chaque jeudi, quatre membres de l'opposition politique congolaise organiseront un sit-in devant les installations de la CENI. Décision de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Délice Sanga ce jeudi, après avoir été empêchés d'atteindre le siège de la CENI pour un sit-in programmé le lendemain de la marche du 20 mai dernier. Dans ce journal, les propos de Martin Fayulu. 215 millions d'euros pour réhabiliter et moderniser trois groupes au barrage d'Inga. L'accord de principe sur le financement de ce projet a été remis hier mercredi à Pékin en Chine au directeur général de la SNEL par le groupe chinois CNEEC. Les travaux devront débuter dans 2 mois environ et devront durer 2 ans. Josué Aruna, président de la Société civile environnementale du Sud-Kivu, est l'invité de ce journal. Il parle de l'état de la biodiversité au Sud-Kivu à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité qui a été célébrée le 22 mai dernier. Bonjour à tous. Désormais, chaque jeudi, quatre membres de l'opposition organiseront un sit-in devant les installations de la CENI. C'est sur cette conclusion que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Délice Sanga sont tombés d'accord après avoir été empêchés d'atteindre le siège de la CENI ce jeudi ici à Kinshasa lors de leur sit-in programmé le lendemain de la marche du 20 mai dernier. Pendant plus de 3 heures, ces opposants avec leurs sympathisants sur le boulevard du Tonjon se sont heurtés à la police déterminée à ne pas permettre leur progression au niveau du BCDC. Au dire de Martin Fayulu, l'ordre intimé à la police pour les empêcher d'organiser leur sit-in est un ordre illégal et la police ne devrait pas obtempérer car, estime-t-il, ils étaient dans leurs droits garantis par la Constitution. Martin Fayulu revient par ailleurs sur le pourquoi de ce sit-in. Il est au micro de Jacques-Yves Moulima.
La CENI ne peut pas nous imposer un ordre et les policiers ne sont pas obligés d'accepter un ordre manifestement illégal. Nous sommes dans nos droits et il faut respecter la Constitution. La Constitution est claire. Okay? Nous pouvons faire un sit-in devant la CENI. Et c'est ce que nous voulons. Pourquoi nous le faisons? C'est pour dire à M. Kadima et à ses amis et à M. Félix Tshisekedi que c'est fini. Le hold-up électoral, c'est fini. Le hold-up électoral qu'il est en train de préparer, nous l'avons compris et nous l'avons démasqué. Et il faut arrêter. Un fichier électoral doit être un fichier fiable. Le fichier qu'il a proposé n'est pas fiable. Il faut qu'il arrête. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous allons encore revenir jeudi prochain. Tout le jeudi, nous serons ici.
Notons qu'au courant de cette manifestation, hormis les quelques jets de pierre entre les manifestants et la police, celle-ci a réussi à disperser certains manifestants avant que leur leader ne tombe d'accord sur cette nouvelle stratégie et enfin de vider les lieux. Le député provincial du Tanganyika, Alexis Kantempa, dénonce la décision prise par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de sceller les bureaux de l'Assemblée provinciale et de suspendre ainsi les plénières depuis 2 semaines. D'après lui, le VPM, Peter Kazadi, a violé la loi. Il l'a fait savoir hier dans une déclaration à la presse à Kalemi. Le député provincial Alexis Katempa est au micro de Paul Mounanga.
J'ai la loi ici, 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux de la libre administration tels que modifiés à ces jours. Quand vous prenez article 61, dans sa mission constitutionnelle des représentations des provinces, le Sénat peut à tout moment consulter le président des assemblées provinciales. C'est alinéa 2. Donc ici, la consultation, c'est réservé exclusivement au Sénat. Maintenant, dans le pratique actuel, quand on trouve que le gouverneur est en maille avec l'assemblée provinciale, c'est le VPM qui prend les kilos d'invité et le président de l'assemblée. C'est sans titre, ni qualité, ni droit. Donc il n'en a pas compétence au point de vue de la loi. Alors on cherche toujours les prétextes pour dire non, il y a crise, tout ça, insécurité, c'est faux. Il n'y a pas crise, il n'y a pas d'insécurité. Quand il y a crise, les crises sont aussi définies par la loi. Ce n'est pas le VPM qui va interdire ou suspendre les plénières. Et ici chez nous, nous voyons même le bureau est scellé. C'est beaucoup plus grave. Ça, c'est trop osé.
Près de 215 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le groupe chinois CNESC rend disponible pour la réhabilitation et la modernisation de trois groupes au barrage d'Inga. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et la RDC. L'accord de principe sur le financement de ce projet a été remis hier à Pékin, en Chine, au directeur général de la SNEL. Après ces travaux, le barrage d'Inga récupérera 510 mégawatts. Cela permettra à la SNEL d'améliorer sa desserte en électricité. Les travaux débuteront d'ici à 2 mois et vont durer 2 ans. Au micro de Jocelyne Moussaou-Pondé, notre envoyé spécial à Beijing, écoutez le directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité SNEL, Teddy Luamba. Il explique l'impact de ces travaux sur la qualité de service de son entreprise.
Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en RDC avec un indisponible de 518 MW. Récupérer 510 avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre desserte qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Donc je pense que les retombées seront très positives et ce sont de telles initiatives que notre management est en train de soutenir. C'est qui justifie aussi notre présence ici. Donc, en principe, dans la fourniture, c'est global. Ça veut dire que nous avons le secteur urbain qui va bénéficier, le secteur industriel qui va bénéficier. Donc, c'est au bonheur de tous nos abonnés.
Notez que la contrepartie du gouvernement congolais dans ce projet est de plus de 32 millions d'euros, soit 15% du coût global. La CNESC, qui apporte les 85% remboursables par ailleurs, est une filiale du groupe CEMOC, actionnaire majoritaire des Tenke Fungurume Mining. CEMOC financera également à hauteur de 610 millions de dollars américains la construction d'un barrage hybride hydro-solaire d'une puissance de 638 MW dans le bassin du fleuve Lualaba. Cela en vue d'améliorer la desserte des zones minières du sud de la RDC. La gestion des déchets électroniques, électriques et informatiques en RDC, défi et enjeu pour un développement durable. C'est le thème d'une table ronde de 3 jours qui a débuté hier à l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Cette 5e édition est une fois de plus organisée par sa faculté de communication sociale. Samba Dimouke.
L'objectif est notamment de sensibiliser les décideurs et la population sur la gestion de déchets dangereux et très polluants que constituent le téléphone, frigo, ordinateur et autres biens d'usage courant. Le doyen de la faculté de communication sociale explique.
Quand vous achetez votre téléphone, en principe est inclus le prix pour que ça soit récupéré par celui qui vous l'a vendu. Cette clause n'est pas respectée.
Le professeur Hilaire Mbillet, initiateur de cette rencontre, exhorte le gouvernement à définir une politique claire en la matière.
Nous attendons que le pouvoir public définisse une politique claire dans le domaine de la gestion des DEI. C'est ce qui manque. En parlant des pollueurs-payeurs, est-ce qu'on doit sanctionner le fabricant ou l'utilisateur?
Didier Kabongo, représentant de la ministre de l'Environnement, affirme les recommandations qui en sortiront aideront le gouvernement à améliorer sa politique dans ces secteurs.
Donner au gouvernement des recommandations pouvant permettre d'améliorer sa politique environnementale.
Parmi les intervenants à cette rencontre, on note les grandes entreprises informatiques de la place, celles de télécommunications, des entreprises brassicoles, la SNEL et des agences de publicité.
Restons à Kinshasa pour parler de la visite du vice-ministre de la Santé dans les établissements sanitaires de la ville de Kinshasa hier et plus particulièrement dans les services d'accouchement. Selon le vice-ministre de la Santé, Serge-Emmanuel Olen, cette visite entre dans le cadre du programme national d'accouchement gratuit du gouvernement. Après l'hôpital de Kimbanseke, celui des mères et enfants dans la commune d'Engaba, Serge-Emmanuel Olen s'est dit satisfait des travaux de construction du nouvel établissement prêt à accueillir les femmes enceintes au sein de l'hôpital général de Kinshasa. Mama Yemo. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous sommes venus dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. D'abord, la mission première était d'observer et d'écouter. Et donc c'est des sentiments partagés et mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. Et on a clôturé la visite donc ici sur le site de l'hôpital provincial de Kinshasa, où les travaux sont fort avancés. C'est encore toujours dans la vision du chef de l'État qui veut doter le pays d'infrastructures de qualité. J'étais vraiment impressionné de voir ce si grand chantier qui, dans quelques mois, pourra déjà ouvrir pour accueillir les patients. Je pense que si on attend qu'elle soit prête à 100%, on ne commencera pas. Il faut commencer au cours du processus, on va essayer d'améliorer. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui demandent encore une petite mise à niveau, mais dans trois quarts de centres qu'on a visités, je pense qu'on peut lancer le programme et accompagner cette vision-là très rapidement. Il y a moyen.
Et puis parlons de cet échange téléphonique le 23 mai entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi. Une dépêche du département d'État parvenue à Radio Okapi ce jeudi indique qu'Anthony Blinken a exprimé sa profonde préoccupation pour les personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence au pays. La même source précise que les deux personnalités ont discuté de l'importance et de l'urgence du retrait, du désarmement du M23 conformément au communiqué de Luanda. Et pour toutes les parties de s'acquitter de leurs obligations du communiqué de Luanda. Aussi, de s'engager dans les cadres de processus de Luanda et de Nairobi. Anthony Blinken a également souligné le droit du peuple congolais à manifester pacifiquement pour exprimer ses aspirations et l'engagement de son pays pour les élections libres et apaisées en RDC, précise la même source. Plus de trois quarts de la superficie du territoire de Lubero est sous le contrôle des groupes armés. C'est la société civile du dit territoire qui l'a affirmé hier à Josia Oba, chef de bureau de la MONUSCO au Grand Nord. C'était lors de sa mission sur place qui consistait à s'imprégner du travail de la mission onusienne à travers ses différentes composantes pour la protection des civils dans la zone. Tout en réitérant l'engagement de la mission pour la recherche de la paix, Josia Oba exhorte les acteurs de la société civile de Lubero à sensibiliser les membres de groupes armés qui sont du reste fils du terroir à adhérer au processus de paix. Guylaine Kassiasia était sur place. Voici son reportage.
La société civile Force Vive du territoire de Lubero dit avoir répertorié une dizaine de groupes armés locaux dans ces territoires. Leur activisme est à la base de la sécurité permanente dans presque tous les villages et agglomérations du territoire. Par conséquent, toutes les actions de développement sont négativement impactées dans la région, d'où les plaidoyers de la société civile pour l'intervention de la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, dans la restauration de la paix dans les territoires. Georges Katsongo en est le président.
Nous pensons que la MONUSCO, au niveau de la sécurité, peut toujours jouer son rôle aux côtés des acteurs étatiques et non étatiques afin que la paix et la sécurité soient une réalité.
La MONUSCO a tout de suite réitéré son soutien à toute démarche pour le retour de la paix dans la zone. De son côté, le représentant de l'administrateur du territoire à ses assises, le commissaire supérieur à Bamungu Jean-Paul, salue le soutien de la MONUSCO à la police nationale congolaise qu'il commande dans les territoires de Lubero. Un appui qui cadre avec son mandat, celui de la protection des civils. Des retours de Lubero, Beni Guylaine Kassiasia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le camp des déplacés de Moudja, situé dans le territoire de Nyiragongo, héberge 2700 ménages depuis son installation en novembre 2022. Ces déplacés internes vivent dans des conditions très précaires. Plusieurs enfants et des femmes enceintes manquent même des vêtements et dorment à même le sol dans des abris précaires. Ce site a jusqu'ici enregistré 8 morts à cause du manque de nourriture. Ce constat a été fait hier lors de la visite de soutien et de solidarité de la délégation de CARE International dans ce site. Vu l'énormité des besoins, la vice-présidente chargée des opérations et de programmes de l'ONG CARE International, basée au Nigeria, plaide auprès des acteurs humanitaires et auprès des bailleurs de fonds pour qu'ils accordent plus d'aide afin de subvenir aux besoins de ces déplacés en situation difficile, mais aussi de renforcer la résilience de familles d'accueil. Madame Claudine Mensa Aouté s'exprime au micro de Bernardine Diambo.
Depuis qu'ils se sont installés ici, ils ont eu à déplorer 8 morts, des personnes qui sont décédées par manque de nourriture. Et ça m'a personnellement touché, surtout d'apprendre que CARE est le seul intervenant en termes de distribution de vivres. Or, ce camp abrite beaucoup d'enfants, des femmes enceintes que nous avons croisées, des enfants nus, dans des abris précaires. Nous avons entendu parler de l'énormité des besoins qui malheureusement n'arrivent pas à être couverts. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel aux acteurs humanitaires, mais aussi aux bailleurs qui soutiennent nos actions pour qu'ils accordent plus d'aide afin de subvenir aux besoins vitaux immédiats aux populations. Nord Kivu étant une province où on a une succession de crises, où on a aussi des déplacés internes qui se multiplient, il est important qu'on porte aussi un regard sur les familles d'accueil pour qu'on puisse renforcer leur résilience afin qu'elles répondent aux besoins des personnes déplacées. Une fois que nous aurons renforcé leur résilience et augmenté leur capacité économique, elles pourront plus facilement venir en aide à ces personnes.
Terminons cette partie du journal par cette information de Lubumbashi. Le coup d'envoi ce jeudi à Lubumbashi même du championnat national de football féminin. Si certaines provinces ont déjà confirmé leur participation, d'autres ne l'ont pas encore fait. Cette fête nationale de football féminin verra les équipes rivaliser d'ardeur et de talent pour la conquête du titre qui est détenu par la formation du tout-puissant Mazembe Jangando.
Cette compétition qui commence en ce jour est en sa 14e édition et c'est pour la première fois qu'elle va se jouer à Lubumbashi. Pour ce faire, trois stades ont été retenus, à savoir le complexe Omnisport Kibasa Maliba de la commune de Kenya, le stade Tupisa Mazembe de la commune de Kamalondo et le stade Eagle Jolicite au stade Gaëtan Kakoudji de la commune annexe. Nous apprenons de l'organisateur qu'en dehors des équipes du Haut-Katanga, celles du Lualaba et du Kasai Central sont déjà dans la capitale du Cuivre. Celles du Kasai Oriental seraient à Kamina en route vers le lieu de la compétition. Les représentantes de la province de l'Équateur sont à Kinshasa et pourraient rallier Lubumbashi très prochainement. Les autres, notamment celles du Nord et Sud Kivu, sont aussi attendues. Difficile de savoir si les équipes de Kinshasa seront aussi présentes à cette compétition qui ira du 25 mai au 17 juin prochain. Notons que le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 15h30, heure de Lubumbashi. Et c'est l'équipe championne en titre de tout-puissant Mazembe qui va ouvrir le bal face à la formation de la fondation JKK de Likasi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
L'invité. L'invité de ce journal, c'est Josué Aruna, président de la Société civile environnementale du Sud Kivu. Il revient sur la Journée internationale de la biodiversité célébrée le 22 mai dernier. Il s'entretient avec Rachel Kessembangu.
Bonjour, monsieur Aruna.
Bonjour, madame.
La biodiversité, qu'est-ce ?
La biodiversité, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a comme animaux, la végétation, tout l'ensemble des éléments naturels qu'on trouve dans un écosystème. Et cet ensemble constitue même le sous-bassement de ce qui constitue notre cadre de vie. C'est-à-dire, sans ce cadre de vie, notre avenir, notre économie, notre santé serait en danger toujours.
Quelle est l'importance de la Journée internationale de la biodiversité que nous célébrons ce 22 mai ?
Cette année, la journée est célébrée sous le thème de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. Parce que on s'est rendu compte que après l'accord de la COP15 à Montréal en 2015, où nous avons eu la grâce d'être présents, cet accord, c'est un accord historique qui a négocié sur la manière dont les États du monde, sous l'égide des Nations Unies, doivent se mettre ensemble pour développer les stratégies à leur niveau, au niveau des États, pour réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité, notamment au niveau des zones à biodiversité clés, des zones stratégiques pour la conservation, parce que il y a d'un côté la conservation, il y a de l'autre côté les besoins des personnes humaines, notamment les communautés locales et les peuples autochtones. De l'accord à l'action, on veut voir maintenant que l'implication et l'engagement de chaque État, comme la République démocratique du Congo, de voir quels sont les efforts que l'État de la RDC, ensemble avec les gouvernements provinciaux, mettent en place pour éradiquer et faire terminer les menaces dont subit la biodiversité aujourd'hui, spécifiquement au niveau des aires protégées. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est dans quelle situation en termes de la politique environnementale au niveau de la République. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est cette exploitation minière dans les aires protégées. La tendance aujourd'hui, c'est exploiter le pétrole dans le parc national de Virunga. La tendance aujourd'hui, c'est ces groupes armés qui sont en train de semer la terreur et la panique. Cette situation, ce sont des gens qui veulent semer la terreur afin que la zone de conservation ne soit plus contrôlée à 100% par le service de l'ISSN qui travaille jour et nuit pour assurer la sécurisation de cette biodiversité. Et l'action, c'est quoi que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, demande, c'est que les gouvernements au niveau des États puissent d'abord traiter cette question de sécurité afin que cette biodiversité... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à Kalehe ? C'est parce qu'on n'a pas bien géré la biodiversité. Et cette biodiversité végétale, on a laissé que Kalehe soit déboisée et personne ne s'en souciait. C'est aujourd'hui qu'on est en train de se réveiller après que nous sommes en train d'enregistrer des conséquences. Et moi, je le dis toujours, si nous adoptons de perdre Kahuzi Biega, il y a des conséquences économiques graves.
Vous êtes revenu sur les menaces auxquelles fait face notre biodiversité, mais comment reconstruire justement cette biodiversité ?
La reconstitution de la biodiversité, ça doit passer à travers la restauration, à travers le programme de l'agroécologie qui doit d'un côté répondre aux besoins économiques de nos communautés et de l'autre côté donner des bénéfices en termes de la biodiversité, mais aussi assurer la sécurité au niveau des zones clés de la biodiversité et limiter tout ce qu'il y a comme menace liée au braconnage des espèces rares au niveau de la province du Sud-Kivu.
Monsieur Haruna, quel état des lieux faire aujourd'hui de la diversité biologique dans notre province du Sud-Kivu?
L'état des lieux est catastrophique, c'est-à-dire avec l'ampleur de la dégradation continue des zones à biodiversité clés, et on se retrouve dans une situation où il y a les criminalités environnementales qui sont en train démonter au niveau de la province et où la justice congolaise vraiment ne se penche pas correctement sur les criminels environnementaux. Et nous pensons qu'avec cet état des choses, ce qui s'adonne à la destruction de la biodiversité se trouve dans une situation de non-inquiétude. Et comme il se trouve dans une situation de non-inquiétude, il se voit maître absolu et de continuer à détruire la nature. Que ce soit la réserve naturelle du Tombwe, que ce soit au parc national de Kahuzi-Biega, que ce soit les autres écosystèmes lacustres, aquatiques, le braconnage des espèces rares comme des hippopotames ici dans la plaine de la Ruzizi. Donc, la situation de la biodiversité dans la province est vraiment catastrophique.
Josué Haruna, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur.